un nouveau rendez-vous. C'est pas la première fois que nous faisons, c'était déjà le deuxième ou troisième rendez-vous. Les vendredis d'Eureka, un petit peu de science avant le week-end, voilà. On a souvent un peu de temps le vendredi soir, en fin de semaine, pour réfléchir un petit peu à pas mal de sujets. Et là, nous sommes partis pour un cycle de 3 conférences avec Jean-Jacques pour nous questionner un petit peu sur le propre de l'homme. En fait, en quelque sorte, on va réfléchir, s'intéresser, creuser le passé pour finalement s'intéresser à ce qu'est notre humanité à travers quelques thèmes. Nous allons parler de l'alimentation, de la chasse, ce sont pour les prochains rendez-vous. Et ce soir, nous allons commencer par la bipédie. Pourquoi l'homme marche sur ses deux pattes, ses deux jambes? Pourquoi? Comment il en est arrivé là? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou est-ce que c'est des conditions extérieures qui l'ont poussé à prendre cette position debout? Voilà, autant de questions que l'on va te poser et que tu vas peut-être questionner à travers ces éléments-là. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation et puis à apporter sur ce cycle de conférences ces éclairages. Merci à toi et sans plus tarder, je te passe la parole.
Bonsoir à tous. C'est pas une conférence à proprement parler. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Je m'interromps, on reprend les arguments on refait le match. Voilà, c'est le vendredi soir, il y a peut-être un match à la télé. Là, on fait la même chose. L'idée du point de départ questionner les origines de la bipédie, c'est quelque chose qui effectivement est un des éléments qui constitue les origines de l'homme et un peu sa propriété entre guillemets. Et on va voir que c'est pas forcément un fait qu'il y ait un consensus. Et l'idée est de vous montrer les éléments avec lesquels on peut discuter pour parler de la bipédie. Voilà. Alors, par exemple, on est en 1975 et on est au sortir du congrès de Rome, t'as tous les paléontologues qui sont sortant du bâtiment, ils sont très contents. Et puis Yves Coppens a proposé son hypothèse List Size Story avec sa Lucie et une origine de la bipédie parce que effectivement elle se redresse dans la savane. Et les événements en 74 sont 72-74 permettent de le dire parce que le fossile le plus ancien c'est un Australopithèque. Donc l'idée c'est de vous montrer un bassin d'Australopithèque pour voir qu'est-ce qu'il en est. Voilà. À côté de ça, on a fait des expérimentations et regardé comment se déplacent les chimpanzés. Et on a vu qu'ils se déplacent à quatre pattes avec ce qu'on appelle le knuckle walking, c'est la marche sur les phalanges. Bon, donc du coup, ils seraient quadrupèdes. Voilà. Donc, l'approche de la bipédie se fait souvent comme ça. Marc, des fois, on croise des gens, on leur met une petite étiquette dans le dos. Là, on approche du mois d'avril, c'est des poissons, mais pour le coup, voilà, les paléontologues font un peu comme ça. Ils marchent comme ça, donc, taf, quadrupède. Ils se déplacent dans les branches avec les bras, brachiation, brachiateur. Ils sautent d'un arbre à l'autre, mais c'est un sauteur, agrippeur, vertical. Ils ont tous une étiquette comme ça qui correspond à leur fonction. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, si vous avez, un chat, il marche, il court, et des fois il grimpe aux arbres. Donc on peut se dire que dans son mode locomoteur, il n'est pas uniquement coureur, il peut être grimpeur aussi. Et dans ce grimpeur, comment il le fait? Il le fait avec des griffes. Ok. Donc ses compétences, son anatomie lui permettent de se déplacer dans ces deux environnements. C'est juste le substrat qui est différent. Donc, est-ce que les hommes ont plusieurs cordes à leur arc, plutôt l'inverse, que uniquement la bipédie? Est-ce que les chimpanzés ne font pas que de marcher à quatre pattes, etc. Donc là, on peut se poser la question, et après, on verrait que éventuellement, il y a des choses qui pourraient nous amener vers une compréhension plus globale de qu'est-ce que c'est que la bipédie. Donc ça, c'est un des premiers points. Par exemple, si vous connaissez les bonobos. Voilà. Les bonobos, c'est une espèce de chimpanzé qui vit au Congo, dans une forêt tropicale assez humide. Et c'est des très bons grimpeurs. Donc ils ont une main avec un pouce opposable, et puis au pied c'est pareil. Donc ils grimpent très bien. Au sol, ils marchent sur les phalanges pour les membres antérieurs, comme ça là. Et au niveau des pieds, ils les posent bien à plat. Par contre, si jamais vous avez un bonobo qui ramasse de la canne à sucre, eh bien il la prend dans ses mains, puis il va la manger un petit peu plus loin. Donc il se lève, il prend la canne à sucre, et il s'en va. Donc il marche de manière bipède. Et quand on regarde effectivement comment il pose le pied, il pose bien le pied comme ça, du coup bien à plat, et même si ses pouces sont longs et le pouce un peu écarté, ça ne lui gêne pas pour faire une bipédie. Donc le bonobo peut de temps en temps être bipède. Un jour, un bonobo mâle croise une femelle, il se met en face d'elle en la regardant de manière très un peu, enfin très bonobo lascif quoi. Et il se trouve qu'il reste dans une position bipède et puis il peut l'accompagner comme ça dans des premiers pas en marchant sur ses deux pieds. Vous avez une autre situation, ça c'est chez les chimpanzés communs. Quand un chimpanzé se met en colère, il se trouve, comme vous, hein, il a les poils qui sont droits dans la nuque, les bords des lèvres qui sont toutes blanches, donc il y a des réactions physiologiques qu'on partage un petit peu avec eux. Et avant de partir à quatre pattes en courant, il va quand même taper sur tout ce qui bouge, mais en étant sur ses deux pieds. Donc il a une première scène de colère dans laquelle il est bipède. Donc on voit que dans ce rapport-là, après on peut en trouver d'autres, hein, mais la bipédie intervient dans un champ de comportement autre que la locomotion, d'une part, et d'autre part, eh bien, elle complète dans ses comportements des moments où, effectivement, ils ne sont pas tout le temps à quatre pattes. Je reviens sur les bonobos. On a fait une observation, on a vu des bonobos deux femelles qui discutaient, je connais pas les sujets des bonobos, mais elles avaient l'impression de discuter le long d'une rivière, les pieds dans l'eau, elles soulevaient les pierres. Et en soulevant les pierres, elles retrouvaient des petits gastéropodes ou des petits animaux, puis elles les mangeaient au fur et à mesure, puis elles repartaient sur leurs deux pieds. Elles ont fait 2,5 km. Donc de manière bipède. Alors on a dit, oui, mais tu comprends, c'est pas un sol plat, c'était dans la rivière, elles veulent pas se mouiller les mains, donc elles se sont déplacées comme ça. Néanmoins, il se trouve que les bonobos, les chimpanzés, ont dans leur répertoire locomoteur, et c'est là le mot-clé, répertoire locomoteur, c'est un éventail de possibilités, ils peuvent grimper aux arbres et être braquiateurs, suspenseurs, ils peuvent marcher de manière bipède au sol, quand les circonstances et leur comportement leur indiquent ou impliquent d'utiliser la bipédie, et ils peuvent marcher sur leur de manière quadrupède, et ils courent de manière quadrupède. Bon, ça c'est un premier point. Après on peut voir dans les faits, par exemple. Si je prends un bassin de chimpanzé, voilà, ça j'ai un bassin de chimpanzé. Je sais pas si vous avez vu la gaffe à la télé, des fois ils limitent bien, il y a longtemps. Moi j'ai pas la télé depuis 15 ans, donc je peux pas dire si... donc quand ils limitaient le chimpanzé, ils marchaient comme ça, avec le doigt un peu cambré. Et en fait, ça explique pourquoi le bassin de chimpanzé, je vais poser le micro, hein. Ici vous avez les ailes iliaques, sur la partie ici, elles sont dorsales. Donc les ailes iliaques sont dorsales, en arrière. Là vous avez le sacrum, ici, ou par la colonne vertébrale. Là vous avez le pubis, et là c'est l'ischion. Voilà. Donc le bassin comprend trois parties, pubis en avant, ischion en arrière, on s'assoit dessus, et les ailes iliaques qui sont ici. Elles sont dorsales, donc dans le dos. Ce qui fait que toute cette partie-là correspond à la ceinture abdominale. Toute la partie en arrière correspond au développement des muscles fessiers, et on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Donc, sans être vulgaire, on va dire que le chimpanzé a un petit cul. Voilà. Et, bon, private joke, c'est vendredi soir. Et donc, de ce fait, les trois grands ou gros faisceaux musculaires fessiers sont pas très développés. Si on regarde le sacrum, il est très très long et pas très large. Si on prend les deux premières lombaires qu'on va mettre ici, voilà, exactement pile poil, entre les deux ailes iliaques, eh bien, il peut pas chalouper du bassin. Donc, pour lui, la danse, la lambada, c'est pas possible. Donc, il est toujours coincé, comme s'il avait une ceinture gibot en permanence, et donc, son corps va être obligé d'osciller pour faire la bipédie. Voilà. Si je prends un bassin humain, si je reprends mon bassin humain, vous avez les ailes iliaques qui sont plus tout à fait dorsales, qui s'écartent sur le côté, elles sont complètement évasées. Voilà. Exactement. Après, on voit la crête de l'aile iliaque qui revient sur le devant, ici, comme en faisant un demi-cercle, ce qui fait que la ceinture abdominale est deux fois plus courte. Voilà. Ensuite, les lombaires, on voit qu'elles sont largement espacées par rapport aux iliaques, donc elles sont libres, et du coup, lors de la locomotion, eh bien, le bassin peut chalouper d'un côté à l'autre. Donc mécaniquement parlant, il y a effectivement une possibilité qui est contrainte pour le chimpanzé, alors que pour l'homme, il y a une adaptation de toute la partie pelvienne, donc du bassin, qui est en rapport avec cette possibilité de déplacement. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers points. On peut s'amuser avec ça. Du coup, si on regarde ces différentes parties... Ah, pardon, j'ai pas terminé. Là, vous avez le sacrum encore. Le sacrum, il est pas étroit, il est très large. On a des ailes là qui viennent repousser un petit peu les ailes iliaques sur le côté. Et ça fait une sorte de triangle équilatéral, presque. Donc, en fonction de ces différents paramètres, si on trouve un bassin, on pourra dire bipède ou pas bipède. Si on revient sur la thématique Lucie et notre ami Coppens. Alors, je vais juste le remonter d'abord. Le sacrum, voilà. Et là, j'ai son aile iliaque avec la fosse acétabulum pour le fémur. Et je reprends les os, comment ça marche, où est-ce qu'est le contact. Bon, ça fait comme ça, ok. Donc, le bassin de Lucie se met comme ça. Ce qu'on remarque, c'est du coup l'aile iliaque, elle est plus en arrière. Elle est espacée parce que le sacrum, comme on a vu tout à l'heure, il est un triangle équilatéral et les parties sont plus larges.
C'est Lucie
Australopithèque. Lucie Australopithèque, voilà. Donc c'est un bassin de 3 millions d'années. L'aile iliaque est sur le côté mais ne bloque pas les lombaires. Elle repousse un petit peu sur la partie latérale. Le pubis est très nettement en avant. Donc en fait, le bassin de Lucie, il est clairement en rapport avec la bipédie. Ça, ça va dans le sens de son hypothèse, effectivement. Et si on reconstruit l'ensemble de la chaîne du bassin jusqu'au pied de Lucie, eh bien, on va retrouver un membre qui correspond à des proportions mécaniques de bipède. Et quand on le compare avec la jambe humaine, la jambe de Néandertalien, la jambe d'Homo erectus, ben, on retrouvera exactement la même chose. Donc, déjà, la conformation du bassin, elle va dans le sens d'une adaptation à la bipédie. Mais elle n'est pas tout à fait pareille. Parce que le pied de Lucie, et je l'ai ramené aussi le pied de Lucie, voilà. Donc, on a son pied, et le pouce est quand même un petit peu écarté. Donc, elle a un pouce encore opposable. Il est assez musclé. Alors, est-ce que, de fait, elle aurait dû avoir un pied comme le nôtre? C'est la question qu'éventuellement on peut se poser. Comment est le pied d'un quadrumane qui grimpe aux arbres et qui est bipède au sol? Est-ce qu'il va garder la conformation de Lucie ou est-ce qu'il développerait d'autres capacités? Donc là, c'est Lucie. Et là, je vous en montre un autre fossile. Vous voyez que lui, il a le pouce qui est complètement opposable. Voilà, ça c'est un pied qui a 4 millions et demi d'années. Lucie en a 3. Donc effectivement, ils sont complètement différents. Alors après, la question c'est la comparaison. Alors, si on remet dans la chronologie, effectivement, on va voir que ça c'est un ardipithèque. C'est ce petit bonhomme-là, ici, qui est un des précurseurs des hominidés. Il y a 2 espèces de lèvres d'ardipithecus entre 4 millions et demi d'années et à peu près 6 millions 3. Voilà. Ils sont contemporains du Sahelanthropus, autre hominidé du début de la lignée. Et le troisième, c'est Aurorine, mais Aurorine, on n'a pas de crâne, on a une mandibule, mais qui est introuvable en moulage. Désolé. Et j'ai son fémur, par contre. Et son fémur nous raconte que lui, il est bipède aussi. Voilà. Donc en fait, comme on ne trouve pas tout le temps un squelette complet, donc on a un puzzle à X dimensions, 3 dimensions normalement, mais ensuite il y a des trous, et bien on essaie de composer. Donc là je vous ai montré les deux pieds, qui celui-là il est vraiment arboricole, et celui-là il va déjà dans le sens d'une bipédie. Alors après vous allez penser que je suis un petit peu obsédé, mais les muscles fessiers toujours, la bipédie c'est une histoire de fesses, hein, de toute façon. Les muscles fessiers sont développés, il y a 3 faisceaux musculaires, ils vont descendre le long du fémur, et on va voir ce qu'on appelle le développement de la ligne âpre. Cette ligne âpre est plus ou moins développée, et elle va descendre le long du fémur. Chez appelait ça l'anthropus. On a deux lignes qui sont parallèles mais qui descendent jusqu'à la moitié du fémur. Aurorine, elles se rejoignent et elles descendent sur le centre. La diaphyse, elle est circulaire, alors que celle de Toumaï, du sahelanthropus, elle est un peu ovale, ce qui fait que chez le chimpanzé, ça ressemble, chez les hommes, c'est circulaire. Donc il y en a un qui ressemble à nous, et celui-là qui ressemble plus au chimpanzé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en dehors de notre lignée, c'est juste qu'il y a une variabilité des formes. Bon, juste pour vous prévenir la question. Donc dans ce fait-là, la locomotion bipède invite du coup le développement des muscles le long du fémur, et si chez les hommes, on va les retrouver à descendre jusqu'en bas, ici. Là, en urine, ça s'arrête à peu près par là. Chez Lucie, ça descend jusque à peu près par là aussi. La section est toujours circulaire, et donc on a une lignée bipède qui est très ancienne, qui remonte à plus de 6 millions d'années, avec des cousins qui sont plus ou moins bipèdes également, mais les caractères sont pas tous les mêmes. Alors c'est pour ça que les paléontologues ils s'écharpent avec « Oh, mais le mien, il est plus bipède que le tien !»« Bah oui, mais toi, t'as un fémur, moi j'ai le crâne !» Alors comment on fait pour articuler le crâne et le fémur, comme dirait Michel Brunet ? Ça marche pas. Mais effectivement, par rapport à la... Tu peux poser, si tu veux. Par rapport à la diversité des caractères morphologiques, on va se rendre compte que la transformation du fémur amène des caractères morphologiques possibles en rapport avec la bipédie. Et donc Aurorine, effectivement, nous amène ce fossile de 6,2 millions d'années eh bien, à une bipédie possible avec un fémur long. Bon, après, il ne faut pas exagérer, ils font 1m10 quand même. Donc, pas les fémurs, hein, la stature. Et on a une très belle tête fémorale qui est dirigée vers le haut. Donc là, ça implique, là encore une fois, une station verticale, fréquente. Voilà. Et plus si l'angle entre la diaphyse et le col du fémur vers la tête fémorale est ouvert, bipédie, et un peu plus vers le bas, arboricolie. Mais il y a toujours les frontières sont toujours difficiles, voilà, à cerner. Donc ça, c'est Aurorine, et on va retrouver quasiment la même chose chez Lucie. J'ai une partie de son fémur. On a un col qui est un petit peu plus petit. On a le développement des trochanters, qui sont liés aussi aux muscles fessiers, et la ligne âpre qui descend en ligne tout long. Voilà. Donc là, déjà, on voit un petit peu que les caractères au niveau du bassin s'organisent et que sur des fossiles d'il y a 7 millions d'années, tout le monde n'a pas la même manière de se déplacer. Par contre, on revient tout le temps sur le même fait, c'est que le bassin, le peu qu'on a, sont moins fermés, dans le sens, les ailes iliaques sont moins dorsales que chez le chimpanzé. Ah, ça pose vraiment une question, parce que normalement, si l'ancêtre commun entre les hommes et le chimpanzé ont un bassin, il devrait être dorsal, comme le chimpanzé, s'il a des caractères archaïques. Et en fait, ça marche pas. Donc, on est en train de se dire que, potentiellement, il est possible que les espèces entre 7, 8 ou 9 millions d'années avaient un comportement plus opportuniste en termes locomoteurs et, du coup, un répertoire locomoteur plus large. De fait, ils pouvaient être bipèdes plus fréquemment, pour X ou Y réseau qu'il faudrait qu'on détermine. Et Ardipithecus, son bassin, malgré son pied avec le pouce opposable, voilà, eh bien, il a un bassin qui est plus proche de celui des Australopithèques que celui des chimpanzés. Alors, ça voudrait dire que, dans un premier temps, potentiellement, eh bien, la lignée humaine commence avec un répertoire locomoteur où la bipédie est déjà présente. Et il y a 7, 8, 9 millions d'années, on est encore en milieu forestier. Donc ça veut dire que la bipédie n'est pas émergente en milieu de savane, mais elle est déjà présente dans le milieu forestier, dans les comportements. Donc la préhistoire du piéton est plus ancienne que la préhistoire du marcheur sur les phalanges. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Après, bon, il se trouve que j'ai le bras de Lucie aussi. Voilà, j'ai son bras, avec son numérus, cubitus radius et sa main. Elle a une main avec des phalanges qui font des ponts, qui sont assez longues. Donc je dis des ponts, c'est la phalange qui fait un arc, entre guillemets. Et du coup, les doigts sont assez longs. comment ça se fait qu'une forme déjà assez orientée vers la bipédie garde des bras plus longs que ses jambes, du genre elle peut se gratter le sous des genoux sans se baisser. Nous on peut pas, hein, donc elle a des proportions corporelles qui sont pas les mêmes que nous. Et elle garde des bras typiquement adaptés au grimper dans les arbres. Alors, ce mixte de caractères, un pied adapté à la bipédie, des bras adaptés au grimper, comment ça se fait que les deux caractères ou les deux formes de locomotion puissent être toujours présentes? Ça veut dire potentiellement qu'elle vit toujours dans un environnement où les arbres sont très fréquents et qu'elle grimpe fréquemment aux arbres. Alors, mes étudiants me disent tout le temps, oui, d'accord, elle descend de l'arbre pour remonter, aller chercher les fruits. Bon, d'accord, peut-être. Mais on peut imaginer autre chose. Imaginons que vous faites 1m10, que dans la région où vous vivez, il y a un petit chat qui lui aussi au garrot fait 1m10, mais il a des canines qui sont grandes comme ça. Donc ça fait des jolies boutonnières quand il vous mord, mais vaut mieux éviter. On a plein de crânes qui ont été cassés et fracassés par ce genre de panthère, donc elle nous a laissé énormément de fossiles, donc elle affectionnait beaucoup les australopithèques. Donc, pour lutter contre la prédation, on ne va pas dormir au pied de l'arbre, hein, auprès de mon bar, je vivais heureux. Non, du coup, on va faire les nids en haut. Tant qu'il y a des arbres, on dort en haut. La journée, on va se balader, parce que la panthère chasse la nuit. Donc la journée, on est tranquille. Et on va fourrager, puis le soir, on remonte dans les arbres. Et en fait, toutes les espèces, jusqu'à Homo habilis, elles vont garder ce combo bras longs, jambes courtes. Et à un moment donné, paf, on a des bras qui réduisent de taille et les jambes qui s'allongent. Et là, c'est pas qu'on peut plus grimper aux arbres, mais on est en train de se dire que ces grands hommes qui émergent vers à peu près 2 millions d'années, eh bien, ont complètement, ou ils ont compris quelque chose par rapport à la prédation que leurs ancêtres n'avaient pas compris. Donc là, il y a un rapport de force qui change et directement, on voit se développer un comportement de bipède, mais x2, x3 en termes de compétences. Alors, on va aller voir ça. Alors, il y a quelque chose qui est bon dans le scénario, c'est-à-dire que si la bipédie est présente avant, elle va être favorisée s'il y a plus ou moins d'arbres. D'accord. Par contre, là où ça, le scénario a un petit peu des points d'achoppement avec la réalité de nos données, c'est que entre 7 et 3 millions d'années, on a un climat qui régresse, bien sûr. Dans la partie est africaine jusqu'en Afrique du Sud, on a un relief qui monte jusqu'à 1800, 3000, 5000 pour le Kilimandjaro, hein. Donc on est dans la haute Afrique, entre guillemets, et le climat est moins aride que sur la partie nord-ouest. Genre les grands lacs, du lac Niger au lac Tchad, en passant par le lac Soudan, où les périodes de sécheresse sont plus intenses et les lacs sont moins profonds. Donc on a des grandes étendues avec des évaporites et puis la chaleur qui n'en finit pas de monter quand on est en période aride. Sur la partie de la haute Afrique, donc on prend 1000 mètres d'un coup, paf, à 1000 mètres d'altitude, le climat n'est plus tout à fait le même. Et on a des petits îlots forestiers qui sont toujours présents parce que les derniers australopithèques à disparaître, ils disparaissent en Afrique du Sud vers à peu près 1,7 million. Donc ils perdurent jusque tant que la forêt, les gros buissons d'arbres, entre guillemets, perdurent. À partir de 1,7 million, là on rentre dans une autre phase où l'aridification de l'Afrique de l'Est est plus importante. Donc les disparitions des australopithèques. Et les paranthropes, donc les cousins des australopithèques. Alors, un australopithèque, j'en ai un là. Je vous mets un paranthrope en... Bah si, c'en est un là, ici, tac. On fait un jeu de chaises musicales. Et là, vous avez un paranthrope robuste. Eux, dans le même temps que les hommes modernes, que les hommes vont devenir bipèdes, à la suite des australopithèques, mais ils disparaissent vers 1 million d'années. Donc il y a plein de problèmes qui sont pas forcément liés à la locomotion, mais ça, on verra ça quand on parlera de l'alimentation. Ce qui est intéressant, c'est que des australopithèques au paranthrope, on part de proportions bras longs, peut-être le dessous du genou, jambes courtes, et quand on passe au paranthrope et aux hommes après 2 millions d'années, c'est jambes longues, bras courts. Donc effectivement, il y a un changement. C'est l'intensification de l'adaptation à la locomotion bipède. on peut se dire, mais qu'est-ce que la bipédie peut nous apporter dans un environnement de savane? Parce que pour courir vite, les chimpanzés courent plus vite à quatre pattes que nous courons sur nos deux pattes. Là, c'est un fait. Même Mbappé avec un ballon, il rattrape pas. Pourtant, il court à 38 et quelques kilomètres heure. Donc, il y a un petit bricole qui se passe, c'est que, en même temps qu'on acquiert ces caractéristiques de bipédie, on a un cerveau qui devient énorme. Donc, on prend la grosse tête. Et ce faisant, il y a un problème métabolique qui se pose. Un, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Deux, je ne dois pas en dépenser beaucoup. Donc, la locomotion à quatre pattes demande beaucoup d'énergie. La locomotion à deux pattes en demande beaucoup moins. Et donc, le fait de marcher longtemps au homo habilis et ensuite d'augmenter la cadence homo ergaster, homo erectus, eh bien, fait qu'on va avoir un corps qui va complètement se transformer. Et de petit homme, 1m20, 1m30, on va arriver à 1m60. Et c'est là qu'intervient le bassin de mon petit homme, homo ergaster. Il est là, ça c'est sa tête. Il a 14 ans, il mesure 1m62. Donc il n'a pas encore fini sa croissance. Son bassin, vous voyez, très écarté, les ailes qui reviennent sur le côté. Il a un bassin tout petit, pas très haut par rapport au chimpanzé qu'on a vu tout à l'heure. Et on a une réduction importante de la ceinture abdominale. Je vous expliquerai pourquoi j'insiste tout le temps là-dessus. Et on a le développement du bassin moderne à partir de 2 millions d'années. C'est presque notre bassin, en plus petit. Voilà. Et ils sont assez larges. Donc, en termes de fémur, par exemple, ça c'est un fémur d'Homo habilis. Bon, il manque le bas, hein. On va faire abstraction. Là j'ai un fémur d'Homo erectus. C'est pas du tout la même taille. Un fémur d'Homo ergaster. 1,9 million. Il est plus grand que le mien. Je suis derrière la table. Si je le mets comme ça, il a 10 cm de plus que moi. Donc les grands hommes, c'est pas pour rire, quoi. On a vraiment, en quelques centaines de milliers d'années, 200-300 000 ans, des hommes de très grande taille. Là, il faut arriver à 1m88-90. C'est énorme. Et là, la ligne de l'âpre, on la voit très bien. Elle est tout le long, ici, jusque-là. C'est tout notre fémur, mais en plus robuste, plus costaud. Le bassin paraît plus frêle, mais le fémur est super robuste. Donc, cette bipédie, de fait, elle prend une allure d'évolution en étapes, dans le sens où elle se développe en milieu forestier, elle est commune à plein d'espèces, et puis on a une ou plusieurs qui vont développer leur bipédie dans des espaces plus ou moins ouverts, mais elle est déjà présente, et en marge de cette population qu'on pourrait qualifier d'homo habilis, toujours grand bras, petites jambes, prédation, on en a un qui va s'écarter un peu plus et aller plus loin. Et certainement qu'il doit y avoir forcément une adaptation qui lui permet de résister à la pression de prédation. Pourquoi ? Parce que comme il n'est plus grimpeur dans les arbres, il faut qu'il y ait un moment où il résiste à la morsure de ces grandes panthères. Donc, on a un système de protection qui doit se mettre en place et il faut trouver le moyen. Et ce moyen, c'est un moyen social. C'est-à-dire que c'est plus une résistance tout seul, c'est une résistance en groupe. Donc, dans les paramètres qui parlent de l'évolution de l'humanité, il y a une transformation de je me balade avec quelques membres de ma famille, et puis on va fourrager, on rentre, on monte dans les arbres, à on se balade à plusieurs, on ramasse, on mange, et puis on trouve quelques carcasses, on casse les os, on mange la moelle, et puis éventuellement on chasse un petit peu. S'il arrive une panthère, on fait tous rond. Et de fait, à 15, 20, 30 ou 40, on est largement plus fort que la panthère. Et si en plus on sait jeter des cailloux en visant bien, la panthère a horreur des chocs. Comme le lion d'ailleurs. Du coup, s'il reçoit des cailloux, ils s'en vont. Voilà. Bon, faut bien viser. Hein. Parce qu'il court vite. Et plus vite que nous. Donc voilà, il y a tout un tas de comportements à développer pour lutter contre la pression. Et la réponse, c'est une évolution sociale. Bon, ça, il faudra qu'on puisse le... Pour l'instant, on va dire que c'est de l'ordre de l'hypothèse. Un jour, peut-être, on regardera quels sont les arguments pour aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est un bassin d'Homo erectus. Je vous montre un bassin de Néandertalien. Donc, c'est pas pas du tout la même taille. Les Néandertaliens sont un petit peu plus petits en taille, hein. Mais on voit que les aililiaques sont largement espacés. Le sacrum et l'endroit où se posent les lombaires est beaucoup plus large. Donc, on a un bassin qui est typiquement adapté à la bipédie complète. Et tellement bien adapté qu'il a une forme assez évasée et une assez longue ceinture abdominale encore. Et par rapport aux hommes modernes, elle est plus longue encore. Nous, la nôtre, elle est beaucoup plus courte. L'évasement des ailes iliaques leur donne un côté un peu féminin. Si bien que chez les Néandertaliens, chaque fois qu'on fait une détermination avec le bassin, une fois sur deux, on se trompe. Parce que les hommes et les femmes ont le même bassin, assez évasé. Alors que chez les hommes modernes, eh bien, les hommes ont les ailes iliaques plus rapprochées et plus hautes, alors que les femmes ont gardé ce type de bassin. On comprend pourquoi la raison, hein, c'est lié à la gestation et au fait d'avoir des enfants, quoi. Donc il y a une question, une réponse mécanique, mais qui est du coup en évolution assez récente dans la problématique. Le trou obstétrique, par exemple chez les Néandertaliens, est plus grand, plus large que chez les Homo sapiens. Alors dans l'hypothèse où ils avaient un cerveau trop gros et qu'ils pouvaient plus naître pour expliquer la disparition des Néandertaliens, ça marche pas. Les enfants qu'ils ont eus, ils sont à peu près de la même taille que les nôtres. Donc là, ça passait sans problème. Alors, j'ai un moulage d'un jeune néandertalien et ça marche. Mais pas aujourd'hui. Voilà, donc on a vu le bassin. Je montre un fémur de néandertalien. La tête fémorale est beaucoup plus grosse que celle de mon sapiens, là, on voit. Et c'est simplement que les Néandertaliens ont une densité musculaire qui est plus importante. Un Néandertalien fait à peu près 90 kg pour 1m65. Bon, c'est un bon pilier, il ferait bien l'affaire au club de rugby chambérien. Enfin, je sais pas, j'imagine. En tout cas, c'est tout un muscle. Et après, les insertions musculaires, elles descendent jusque en bas. Et après, ils ont une petite particularité au niveau des jambes, c'est qu'elles sont plus courtes. Et les os sont légèrement plus arqués. Alors, c'est pas parce qu'ils sont, comme on dit, ils ont mis des jambes sur un dos. C'est que cette particularité qu'on va retrouver également sur l'avant-bras leur permet d'augmenter le couple musculaire par rapport à tout ce qui est soulevé ou embrassé. Je les soupçonne de jouer à la lutte avec les ours, mais voilà, on est sûr de rien. Parce qu'il y a beaucoup de blessures. Les Néandertaliens, c'est un public de sportifs, mais à haut risque. Il y a 5 à 6 blessures graves par Néandertalien, quasiment. Comme ceux qui font du rodéo. Voilà. Bon, pour dire. On a vu le bassin, on a vu les fémurs. Voilà, oui. Si, bien sûr. Alors, j'en ai pas amené, et j'en ai qu'un. J'ai celui de Lucie. Et c'est une étude qui a été faite chez les Australopithèques. On se rend compte que leur talon, calcadéum, eh bien, il est plus long que celui des chimpanzés. Et il est un petit peu plus épais, mais guère plus. C'est juste la longueur. En fait, chaque fois qu'on a une bête qui court, par exemple, l'os du coude, l'olécrane du coude est plus long. Chez le cheval, ça se remarque très très bien, par exemple. Et puis, du coup, sur la jambe arrière, le talon est plus long. Voilà. Et on voit que chez les Australopithèques jusqu'aux hommes, eh bien, on a un talon qui s'épaissit, déjà. Les piliers de densité sont plus importants au niveau de l'ossification et ils deviennent plus longs. Voilà. Donc là, oui, effectivement, ça marche aussi. Et on trouve que le talon des Homo habilis est plus long que celui des Australopithèques, et ainsi de suite. Donc il y a encore une confirmation. Mais c'est une confirmation d'usage. Du coup, c'est pas une origine de la bipédie. Voilà. En termes évolutifs, on dirait que la bipédie, c'est une exaptation. Exaptation, ça veut dire que c'est un caractère qui se développe à un moment où tout le monde s'en moque un petit peu. « Ah, bah, il est bipède, très bien, il peut le faire. Ah, moi aussi, tiens, hein, ça marche. » Et puis le jour où ça devient potentiellement extrêmement intéressant, on va développer ce caractère. Et donc, la sélection va... il a déjà fait une répartition naturelle dans le groupe. Tout le monde peut le faire. Et puis le moment où ça devient nécessaire, eh bien, voilà, ça procure plus d'applications en termes de locomotion. Pour revenir, parce que le temps passe, au point de départ, on a une origine de la bipédie qui se fait en milieu forestier, qui se développe dans un répertoire locomoteur pour des êtres à la fois suspenseurs et bipèdes. Elle rentre dans des comportements de la vie de tous les jours, la colère, la drague, les questions de position hiérarchique. Quand un chimpanzé est debout face à un autre chimpanzé qui est au sol, il se relève pour se mettre à égalité, parce que sinon il y a une question de soumission. Bref, s'ils sont à des échelles hiérarchiques assez proches, ça peut créer un précédent. Donc on voit que ça rentre dans des comportements. Et puis ensuite, au fur et à mesure, vu que le comportement social, on l'a vu, pour la prédation, prend de l'importance, eh bien, la bipédie va également rentrer dans ce genre de comportement-là. Après, j'ai un autre petit pied, ici, qui est un pied d'un homme qui a 300 000 ans. Et on voit que tous les axes, alors il est en deux morceaux, mais voilà, tous les axes des métatarses sont parallèles. Voilà. Et sur ces pieds, on a une voûte longitudinale et une voûte transversale. Chez les pieds qu'on a de Mobilis, on n'a pas cette voûte transversale. Elle est acquise quand on a les grands hommes. C'est-à-dire qu'on va passer de la marche vers une possibilité mécanique où le pied fait une sorte de ressort. S'il fait une zone de renfort, enfin il joue le rôle de ressort, c'est que la marche n'est plus le moyen de locomotion qui est unique non plus, mais il y a la course. Vous allez me dire, c'est toujours bipède. Mais en même temps, ça demande d'autres compétences. Et ces autres compétences, c'est l'allongement du fémur, on l'a vu. Ensuite, transformation du bassin, réduction de la cage thoracique, de la ceinture abdominale. Et après, développement de capacités pulmonaires. Et comme on a une augmentation de la hauteur des corps vertébraux, des lombaires, eh bien on éloigne la cage thoracique du bassin. De fait, on a une partie qui est ici plus souple, en théorie. On fait ce qu'on peut. Hein. Qui est plus souple et qui va permettre d'amplifier le mouvement. Quoi. Et de ce fait, dans la course, la ceinture abdominale va permettre de bloquer le bassin pour, là encore une fois, limiter les pertes d'énergie et augmenter la distance parcourue. Donc, à partir des Homo ergaster, à partir de 2 millions d'années, on a des personnes qui sont capables de parcourir 10, 20, 30, 40, 50 kilomètres pour aller à la chasse. Voilà, et ramener un beefsteak d'éléphant à la famille. Non, alors, du coup, oui, je comprends bien. Et c'est exactement un des trous qu'on a dans notre histoire. Parce que ça veut dire que les chimpanzés ont une propre évolution personnelle du groupe qui est de revenir vers une locomotion quadrupède. Et on a deux groupes qui l'ont, c'est le gorille et le chimpanzé. Il se passe qu'entre 8 et 12 millions d'années, c'est le moment où les trois lignées se séparent. Le gorille avant, le chimpanzé après, et avec l'homme. Et entre-temps, quand même, les chimpanzés et les gorilles vont revenir à une locomotion quadrupède. Alors que leurs ancêtres, tous ceux qu'on a, eh bien, ils ont des velléités de se déplacer de manière bipède, avec un bassin un peu plus ouvert. Donc la locomotion quadrupède va faire comme chez tous les artiodactyles, donc les gazelles et autres chevaux, vont amener la hanche à devenir dorsale. Voilà. Et donc mécaniquement parlant, on a cette transformation. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est Yvette Deloison qui a écrit la préhistoire du piéton et qui pose la question de cette origine probablement plus ancienne qu'on ne pense de la bipédie, et donc d'une évolution récente de la marche sur les phalanges pour les chimpanzés et les gorilles. Voilà. Non, mais il nous manque des jalons, et le petit Ardipithèque qui est là, si jamais il est confirmé qu'il est dans la lignée des chimpanzés, eh bien, on a notre élément de réponse, parce que son bassin n'est pas tout à fait celui d'un Australopithèque, mais il n'est pas celui d'un chimpanzé. Et on va pouvoir trouver des caractères communs avec le chimpanzé. Voilà. Donc c'est bien, on quitte une possibilité de locomotion bipède, suspenseur et puis quadrupède si on veut, vers quelque chose qui est uniquement quadrupède au sol et bipède avec des comportements suspenseur avec des comportements bipèdes quand on dit moi j'ai rien à faire dans l'histoire, je suis neutre. Voilà. Il y a plein de chimpanzés qui font ça lorsqu'il y a des petites bagarres. bouge plus. Voilà. Et de fait, ils ont perdu cette mécaniquement. Non, pas, ils ont pas perdu. Ils ont gagné du coup en locomotion quadrupède et en vitesse de course à quatre pattes, mais en milieu arboré. Voilà. Déjà, c'est un élément de réponse. Après, si on fait attention au bruit de fond, par exemple, le bruit de fond, c'est quoi? Le bruit de fond, c'est on a un fossile par ici, on a un fossile par là, une dent par-ci, par-là. On voit que les chimpanzés ont une distribution aujourd'hui qui est uniquement de la Tanzanie, sud du Kenya, jusqu'au Sénégal, mais que dans les zones forestières. Et en fait, on trouve des dents au Niger, on trouve des dents en Éthiopie, voilà, dans la vallée de l'Afar, donc quasiment au nord de l'Éthiopie, et un petit peu plus au sud. Donc ça veut dire que la distribution des chimpanzés était, il y a 5, 6 millions d'années, voire 8 ou 12 millions d'années en arrière, beaucoup plus large. Et l'autre évolution se passe dans la zone où il y a les chimpanzés. Donc c'est bien un choix d'écologie et de comportement, de mode de vie, qui est à l'origine de la bifurcation de ces différents groupes. Et en plus, si on regarde bien, c'est pas le chimpanzé a un ancêtre commun avec l'homme, mais chaque fois qu'on va chercher, on trouve plusieurs espèces dans les nœuds où on doit pouvoir retrouver notre ancêtre. Et à chaque fois, on se dit, ah, c'est celui-là. Ben non, moi, je suis pas d'accord, c'est l'autre. Et donc, on a trois espèces pour vers autour de 7 millions d'années, Sahelanthropus, Aurorine et Ardipithèque. Pour les premiers hommes, on a trois espèces, l'homme du Gauteng, Homo habilis, Homo rudolfensis. Et après, 400 000 ans après, on se retrouve avec déjà deux espèces, Ergaster et Erectus, l'une ou presque après l'autre, et vers un million d'années, bam, on a Sapiens d'un côté, enfin les ancêtres de Sapiens, les ancêtres des Néandertaliens, les ancêtres des Denisoviens, et je parle pas d'autres petites espèces encore qui sont venues se rajouter. On a 31 espèces dans notre arbre généalogique sur 7 millions d'années, ou population, voilà. Ce qui fait que c'est pas un fil conducteur tout droit, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on a des éléments de réponse, quand même. Alors, en prédiction, en plus. Oula. En prédiction. Alors là, c'est dur, ça. Par contre, modéliser, oui, on l'a fait. Alors moi, je viens du temps de la préhistoire, de la modélisation 3D. Du coup, on faisait avec des points, des lignes, des formes en treillis avec des droites pour faire des volumes. Maintenant, on travaille avec des surfaces et on arrive avec des ordinateurs tellement puissants qu'on peut modéliser la forme de toute la chaîne locomotrice, par exemple du bassin jusqu'au pied, comme nous on avait fait en termes de mesures 3D, mais minimaliste, quoi. Admettons, on avait 100 points avec des coordonnées X, Y, Z, et là, maintenant, on passe à 3 milliards de données, donc c'est plus la même chose. Mais les résultats sont quasiment identiques, hein, en termes d'exploitation. Donc on fait la modélisation, et après, bien sûr, on peut arriver à les faire modéliser, se déplacer, effectivement. Ce faisant, on est toujours obligé de faire de la comparaison par rapport au vivant, et les spécialistes de la locomotion, eh bien, modélisent par film, par reconstitution 3D, et ensuite par mesure, hein, sur les ossements, 3D aussi, pour voir et affiner les modèles de prédiction. Et il se trouve que, par exemple, en France, on a un spécialiste de ces modélisations, c'est Gilles Berillon, qui est au muséum à Paris, et il a filmé des babouins, des chimpanzés et d'autres en situation de bipédie, et après on a mis des marqueurs au niveau du bassin, etc., pour voir comment se succèdent. Mais bon, ça, c'est Jules Marais, je crois, qui avait commencé ce genre d'études au début du XXe siècle. Donc on continue dans ces repères-là, et après, une fois qu'on a engrangé ces modélisations sur le déplacement, on rajoute la position des os par rapport au capteur qu'on a mis, et on peut arriver à modéliser le déplacement. Donc ça existe, hein. Et il y a plusieurs publications qui font ce genre de modélisation avec des petits films, voilà. Bon, mais ce qui est important, c'est d'arriver à voir ce que entre guillemets porte comme caractéristique, comme forme les os, et leur potentiel explicatif par rapport à ces changements-là. De ce fait, quand on voit les différents bassins, comme on l'a dit, effectivement, le bassin de chimpanzé est très nettement différent. Il y a 7 millions d'évolutions pour arriver au bassin de chimpanzé. Voilà. Donc il y a nos conceptions aussi qui parfois sont butent par rapport à la technique, parce qu'il faut dépasser un certain nombre de paradigmes pour remettre en question comment émerge la bipédie au sein de la lignée humaine, quoi. Voilà. Mais les modélisations, oui. Et en prédiction, ben, la prédiction, elle est entre guillemets assez simple. Combien de temps on passe assis dans la journée? Combien de temps passent les enfants à faire du sport? Enfin, ils courent beaucoup, les petits, hein, dans la cour de l'école, d'école. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la quantité de sport qu'on fait dans la journée structure complètement mécaniquement votre posturologie, voilà, déjà, et ensuite vos paramètres de contact avec le sol, ok. Et au niveau musculaire, eh bien, tout se développe en fonction de l'intensité du sport que vous pratiquez. Si on regarde un fémur, un petit exemple par exemple, ça c'est un fémur humain. Ici, on a un angle qui est assez, avec la tête qui est assez vers le haut. Mais si on regarde les néandertaliens, ben cet angle-là est plus ouvert. C'est-à-dire qu'en moyenne, les néandertaliens se déplacent beaucoup plus tous les jours que les hommes modernes. Donc, il y a un côté sédentaire qui est visible chez Sapiens, qui n'est pas visible chez Néandertal. Donc, là encore une fois, l'amplitude de la pratique, de l'amplitude horaire de la pratique de sport faite chaque jour par les Néandertaliens et les Sapiens n'est pas la même. Et chez nous, aujourd'hui, comme on n'est pas non plus exempt de regarder quelques séries pendant le week-end pour se reposer un petit peu de la semaine, mais il se fait qu'on pratique moins d'efforts physiques, et cela depuis l'enfance. Et aujourd'hui, les médecins, certains signalent qu'effectivement, il y a des changements et qu'il serait bon de... On peut se remettre à avoir une pratique et redévelopper une musculature, hein, par rapport à tout ce qui est les paramètres de développement du squelette. Dans les 15 premières années de la vie, eh bien, ils peuvent déjà être... passablement touché si jamais la quantité, entre guillemets, si je dis quantité de sport voulu, n'est pas réalisée. C'est pas une bonne phrase. Hein. On ne pratique pas assez de sport tous les jours. Moi, j'ai beau regarder mon téléphone, il y a des choses, je ne me souviens pas, mais je sais que c'est dedans. Donc, on met un outil dans notre environnement, on change notre environnement. On rajoute donc le téléphone, c'est une mémoire. Combien de fois on s'est dit, attends, j'ai vu un film. Tu sais, c'est l'acteur qui était le grand là avec des lunettes. Ah, j'ai oublié son nom. Voilà. Bah, y a plein de choses comme ça. Il y a plein de petits détails qui avant on était capable de mémoriser et que aujourd'hui on se souvient moins. Ou en tout cas, ça dépend comment on le pratique, bien sûr. Hein. Mais et suivant l'intérêt. Mais il y a des questions au niveau de la mémoire, il y a des questions au niveau de combien de temps vous résistez avant que l'application s'ouvre. 1, 2, 3 secondes, 4, oh c'est l'horreur. Voilà, donc là, au niveau comportement, il y a ça. Après, par rapport aux images, comment on interagit hormonalement vis-à-vis des images qui sont amenées sur, comment on dit, quand on scrolle, c'est ça? Voilà. Là, c'est pareil. Donc tout ça intervient sur notre petite sphère cérébrale et donc ça joue un rôle. Et les gens qui deviennent addicts vis-à-vis de tel ou tel élément visuel qui leur arrive dessus, eh bien, ils sont plus ou moins sensibles parce qu'il y a un entraînement. Quand on fait de l'entraînement avec des chimpanzés pour leur apprendre à distinguer un triangle rouge d'un triangle vert, donc il y a une habituation, et puis bon, ils le font très vite, hein. Mais pour dire qu'il y a un entraînement, ben là, il se passe exactement la même chose avec ce qu'on a sur le téléphone. Alors moi, j'ai rien contre le téléphone, hein, j'en ai un, donc... Mais voilà, donc on peut pas lutter avec le monde dans lequel on vit, des fois, on peut dire ça, mais toujours est-il qu'il y a toujours une évolution en rapport avec ce qui est... Bah, le fait de pas parcourir 30 km par jour, oui, ça peut avoir un effet. Ça a déjà un effet. Ensuite, le fait d'avoir une alimentation qui est riche en sucre et en sel, je prends 15 ans, mais voilà, eh bien, ça a une influence. Parce que ça accélère la maturation physiologique, et du coup, la maturation osseuse. Et du coup, les fermetures des synostoses sur le crâne également. Donc, en fait, on a des perturbateurs du développement qui sont associés à notre mode de vie. Voilà. Donc, faut pas avoir peur, hein. Généralement, ça se passe bien, hein. Mais effectivement, faut être conscient que l'évolution s'est pas arrêtée parce qu'on a construit. C'est beau, on maîtrise tout un tas de données, mais l'évolution, on peut pas l'arrêter. Chaque fois qu'on fait quelque chose, mais il y a une influence qui nous revient dessus, bonne ou pas bonne. The place to be pour les archéologues. Bon, fait exprès, là, lundi, je pars en Espagne, donc je vais aller visiter le site d'Atapuerca. C'est une petite montagne à côté de Burgos. Il y a tous les plus grands sites hommes fossiles, autour de 1,2 million à 1,3 million déjà. Et après, il y a un magnifique site à 430 000 ans avec un puits funéraire, un puits avec 28 individus. Et ça, c'est des sites magnifiques qui sont encore en cours de fouille. C'est des écoles internationales. Et chaque année, ils sortent des fossiles. On est tous avec des yeux grands comme ça, quoi. Là, c'est un lieu où il faut aller, quoi. Effectivement, il y a eu beaucoup de découvertes au Maroc, à Jebel Irhoud, par exemple. Et puis là, notamment à l'une des dernières, à la grotte du rhinocéros Casablanca. Je crois que c'est ça, ouais. Et c'est des équipes françaises, hein, à moitié, bien sûr, mais qui ont participé à ces découvertes. Donc, effectivement, la grotte du rhinocéros, c'est une grotte qui a beaucoup de regards parce qu'on a trouvé une mandibule de 700 000 ans, il y a quelque temps, et on a retrouvé des ossements encore. Donc, là aussi, c'est intéressant. Après, vous allez en Afrique du Sud, Dremelen, ils ont sorti des crânes de petits paranthropes, de jeunes Homo erectus à 2 millions d'années, dans les deux dernières années, deux crânes magnifiques d'adultes, paranthropes quasiment complets, mâles et femelles, j'en ai une là, qui est là, qui vient du même site, et une fossilisation incroyable, et très très beau. Ce paranthrope, il fait 1m60, il a une magnifique crête sagittale, il a des joues comagues, il doit avoir des faisceaux musculaires pour mastiquer qui sont de presque 6 cm. Genre, c'est plus large que celui-là. Et là, c'est une néandertalienne, hein, c'est pas nous, mais vous voyez que la fenêtre qui est ici, là, est quand même beaucoup plus petite. Bon, ça, on verra ça sur l'alimentation. Mais effectivement, là-bas, il y a énormément de découvertes et on a pas mal de choses. Après, il y a en Chine, Yongxian, septembre, ils ont trouvé un magnifique crâne aussi d'un Homo erectus de 900 000 ans. Bon, voilà. Donc en fait, ça bouge beaucoup. Et aujourd'hui, il y a pas mal de découvertes, d'une part, et d'autre part, il y a des méthodes d'analyse qui sont extrêmement complexes et très très riches. Donc l'os, c'est pas uniquement la forme, je vous en ai pas parlé, on verra ça avec l'alimentation, mais on peut parler de la chimie de l'os, et là, on a des résultats, on sait même la différence de repas qu'il y a sur le plateau repas entre un magdalénien et une magdalénienne, du même site. Ça devient vraiment incroyable. On a des données au niveau des dents aussi qui nous permettent de reconstruire toute l'histoire de vie. Donc là, encore une fois, on connaît l'âge de naissance, zéro, hein. Le sevrage, par contre, ça c'est plus difficile, et l'âge de la puberté. Voilà, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé donner des renseignements comme ça. Moi, quand j'ai publié mes premiers résultats en 2002-2003, on me disait « Oui, alors, vos résultats vont à l'encontre de la seule publication que nous avons sur l'âge au sevrage des Néandertaliens. » Je fais « Oui, mais moi, mes résultats, ils donnent ça. » « Oui, mais bon. » Deux résultats, du coup, l'un contre l'autre, on n'était pas d'accord. Maintenant, ça change. On a une perception qui va vraiment dans le... Alors, je vais reprendre un mot à Monsieur Descola, dans l'ontologie, dans la manière d'être des hommes de la préhistoire. Et on a beaucoup plus d'informations sur leur mode de vie, leur histoire de vie. Et ça, aujourd'hui, ça explose. C'est le prochain épisode. L'évolution de la taille, en fait, ça fait le yo-yo. Donc, quand on n'avait pas trop de fossiles, donc on disait des Australopithèques jusqu'aux hommes modernes, ça monte. Puis après, des hommes modernes du paléolithique supérieur, donc jusqu'à 30 000 ans, puis après ça descend jusqu'au néolithique. On disait il y a une gracilisation qui se passe. Et en fait, on se rend compte que c'est un phénomène qui fait comme ça. qui fait le yo-yo. Et effectivement, on a une augmentation chez les hommes, mais au même moment qu'on regarde les gens d'il y a 6000 ans chez nous, qui mesurent 1m59, si vous allez dans le nord de l'Europe, par exemple, vous avez les ancêtres des Vikings et qui mesurent déjà 1m80 ou plus. En fait, c'est qu'une différence de bol alimentaire. Si vous augmentez la part de protéines dès le biberon, vous faites grandir votre petit. Et puis au niveau du cerveau, pareil, augmentation du volume cérébral à cause de ces... Pas uniquement, bien sûr, il y a tout un tas de facteurs, mais les protéines stimulent aussi le développement du système nerveux central. Donc on va avoir augmentation de la taille et augmentation du volume cérébral. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que ça a un rapport avec l'intelligence. Hein. C'est un autre paramètre. Mais par rapport à l'évolution de la taille, c'est un des facteurs qui joue beaucoup. Et ce qui fait que les premiers anthropologues, alors j'en prends un tout le temps en exemple, c'est Arthur Kess, 1808 jusqu'à dans les années 30, qui disait... Oui, alors les gens du nord de l'Europe, ils ont un gros cerveau, 1400 centimètres cubes en moyenne, alors que sur le bord de la Méditerranée, on est à 1300, 1250. Donc on voit que les hommes du nord sont beaucoup plus intelligents. Donc ça, c'était il y a 126 ans maintenant. Maintenant, on ne dit plus ça. Ça ne marche plus. Et on voit que le signal vient effectivement de l'alimentation. Dans le nord, on mange plus de produits lactés et plus de protéines qu'au niveau méditerranéen, où la part alimentaire des légumes est beaucoup plus importante. Donc, ça change les données du métabolisme. Voilà. Et ça ne veut pas dire que le bol alimentaire, il n'est pas de bonne qualité. Non, c'est juste la nature des composants qui va changer notre métabolisme. Par exemple, des mangeurs de feuilles aussi, chez les gorilles, ils mangent beaucoup plus de légumes, mais ils en mangent tellement qu'ils ont besoin d'être énormes pour pouvoir en manger le plus et pour que les mâles puissent lutter les uns par rapport aux autres. Donc les folivores sont toujours très très gros. Et les mangeurs de fruits, vous prenez le ouistiti, ben on est à 15 grammes, quoi, enfin quelques grammes. Donc c'est tellement riche en sucre que le corps n'a pas besoin d'être très gros pour se sustenter et ensuite de profiter de tout ce qu'il y a autour, quoi, en termes de temps social, de temps pour rigoler avec les autres, quoi, voilà. Moins on mange, plus on passe de temps social. Voilà. Donc, et pour revenir à la fin de la question, effectivement, on a vu que les générations d'aujourd'hui, par rapport à les années 60, eh bien, sont plus grandes. Donc en 1967, les hommes faisaient 1m67 de moyenne. Voilà. Quand on arrive dans les années 2000, on voit que les tailles sont plus importantes. En fait, il y a des effets qui sont décennales, séculaires, millénaires sur la taille. Tout dépend de la nature du climat, de la contingence historique, politique, sociale, qui vont influencer les tailles. Ça, c'est des études qui sont assez connues par rapport à ça. Et on peut même pousser le bouchon en disant, dans une même société, à Bruxelles, entre les ouvrières et les bourgeoises, quelle est la différence de taille? Eh bien, on va voir une différence de taille en fonction de la classe sociale. Donc, on retrouve sur la qualité de l'alimentation et puis le fait de porter ou pas des charges et de travailler de bonne heure. Voilà. Donc là, il y a des influences également. C'est assez complexe, mais c'est pas quelque chose qui est linéaire. Alors là, ce qui fait, je vais dire un truc bateau, ce qui fait grandir l'enfant, c'est l'amour. Donc l'amour qu'on lui porte, la sécurité affective qu'on peut lui donner, le fait grandir. Vous prenez un enfant, vous le mettez dans un lit à barreaux, vous le touchez plus, vous lui parlez pas gentiment, eh bien, il va avoir des problèmes de croissance. Ça, c'est le fait que biologiquement, on a le cortisol qui est à l'origine de l'accouchement, hein, qui monte en pic et paf. Et après, ce cortisol baisse parce que une fois né, l'enfant est mis au creux des bras de sa mère, etc. Bon, ça c'est dans les grandes lignes, mais c'est pas dit que. Il y en a qui ont survécu à des traitements terribles et qui sont très bien dans leur peau. Hein. Bon, ça arrive, hein, donc et tant mieux. Mais il se passe que effectivement sur certains, une bonne partie de d'enfants qui ont été étudiés, qui ont vécu ces histoires-là, effectivement, on a des modifications de croissance qui sont liées au manque d'attachement, au manque de soins et au manque entre guillemets d'amour. Maternelle ou paternelle, enfin d'une personne qui soit présente, quoi. Voilà. Donc s'il est entouré, c'est pas, il y a aucun effet. Enfin, je suis pas médecin non plus, mais on peut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire.
Je crois qu'on arrive au terme des échanges de ce premier chapitre que tu as ouvert ce soir. Bah, effectivement, s'il n'y a plus de questions, bah, je crois qu'il est temps de te remercier, de te féliciter pour cette. cette présentation et ce voyage dans le temps et de nous avoir apporté tous tes échantillons. On se retrouve dans à peu près un mois, le 22 mai, ici même à 17h. Et puis d'ici là, eh bien, demain à 15h, nous rencontrerons Agnès Bio qui va nous parler de la pollution lumineuse pour faire le lien avec l'exposition Jour sur la nuit. Et nous parlerons des petites choses qu'on peut mettre en place pour réduire justement, pour réduire notre pollution lumineuse et justement de refaire ce lien avec la voûte céleste. Et puis bientôt, le prochain Entre Midi et Sciences, plutôt printanier, puisqu'on parlera d'éthique, pas de l'éthique en philosophie, mais d'éthique et les petites bêtes qui se promènent et qui nous font plein de petits malheurs. Merci à vous et puis bonne soirée et surtout bon week-end et à méditer.